Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, je vous emmène en Normandie sur les plages. Entre Ouistreham et Cherbourg, là où a eu lieu le 6 juin 1944, la plus grande opération militaire combinée entre terre, air et mer, celle qui allait libérer l'Europe de la domination nazie, le débarquement.
Au cœur de l'histoire.
Il y a des choses qui me reviennent, mais ce n'est pas des belles choses. Je suis venu en France, c'est bien, mais c'est des souvenirs que j'aime mieux oublier. On avait tous peur. Ceux qui n'ont pas peur, c'est des menteurs. On pensait à rien d'autre que de rester vivant.
Qu'est-ce que ça vous fait de participer aux cérémonies du 70e anniversaire?
J'aime mieux pas être là. J'aime mieux être seul, en famille. J'aime pas les tralala. Il y en a beaucoup qui disent, oh ben je retournerai, je referai. Non, une fois c'est assez.
Cette voix brisée par l'âge, mais aussi par l'émotion, c'est celle de Raymond Defer, un vétéran, un parachutiste français qui vit aux États-Unis et qui a participé à cette formidable opération qu'a été le débarquement. On comprend avec lui quelle a été la violence de cette journée et pourquoi on ne voudrait pas la revivre deux fois. Nous célébrons cette année le 75e anniversaire de cet événement phénoménal. Le président Trump sera là et accompagnera certains des derniers vétérans qui ont vécu ce moment extraordinaire. L'occasion pour nous de revenir sur cette histoire, essayer de comprendre ce qu'a signifié cette journée dans la Seconde Guerre mondiale et pourquoi elle marque un tournant dans le conflit. Pour découvrir cette incroyable aventure humaine, plongeons au cœur de l'histoire du débarquement. Notre histoire commence le 6 juin 1944. Sur la Manche, le soleil est en train de se lever. Il est 6 heures du matin. Nous sommes à bord du Samuel Chase, un navire de guerre de 150 mètres de long, parti quelques heures plus tôt de Weymouth, en Angleterre. À son bord, 1300 soldats du 2e bataillon du 116e régiment d'infanterie. Pour la plupart, ces jeunes Américains n'ont jamais connu le feu. Pourtant, ils s'apprêtent à débarquer dans le secteur appelé Easy Red, face à Colville-sur-Mer, sur une plage dont le nom de code est Omaha Beach. L'ordre vient d'être donné de lancer le plan Neptune, c'est-à-dire la phase d'assaut de l'opération Overlord. Les soldats ont maintenant les traits fermés. Ils se concentrent sur l'assaut qu'ils redoutent depuis si longtemps. Parmi eux, un homme brun observe leur visage que certains ont enduit de suie noire pour mieux se camoufler. Cet homme descend avec la troupe dans les barges de débarquement censées faciliter l'accès à la terre de Normandie. Il est vêtu d'un casque, d'un uniforme. Robert Capa se prépare. Capa n'est pas soldat mais photographe. À 31 ans, il a couvert plusieurs conflits armés, comme la guerre civile espagnole en 1936. Il a commencé sa carrière tout jeune, en Hongrie, avant de devenir reporter photographe en Allemagne, de venir en France et de trouver finalement refuge aux États-Unis, où il est devenu un des reporters admis par la marine. Et donc, ce matin du 6 juin 1944, Robert Capa sait que tout peut arriver. Les premières heures du débarquement vont être déterminantes dans l'avance que les Alliés prendront ou non face aux forces allemandes. À 6h15, les soldats sont disposés en file indienne sur la barge. Ils sautent dans l'eau un à un. La mer est plus agitée que prévu. C'est au tour de Capa de faire le grand saut, de plonger dans l'eau glacée. Juste avant de prendre son élan, le jeune homme s'arrête une dernière seconde pour prendre une première photo des soldats pénétrant sur la terre de France. Le conducteur de la barge prend cet arrêt pour une hésitation et lui donne un coup de pied qui le projette dans la mer. Heureusement, Capa a tout prévu. Ses appareils photos sont dans un petit sac de toile étanche. Très vite, le photographe assiste à un spectacle de désolation. Au loin, il aperçoit les soldats américains qui tentent d'accoster sur Omaha Beach, mais les balles ennemies les repoussent. Beaucoup sont fauchés, à peine le pied posé sur le sable. Sur l'eau, certaines péniches de débarquement explosent sous les obus avant même d'avoir pu accoster. D'autres tournent sur elles-mêmes, cherchant désespérément un point d'amarrage plus sécurisé. À mesure que les soldats nagent ou marchent vers le rivage, le feu allemand se déchaîne. Robert Capa porte son matériel de photo sur la tête au-dessus de son casque pour le protéger de l'humidité. Une fois arrivé sur Omaha Beach, il déclenche son appareil des centaines de fois. Dans le vacarme assourdissant des obus, des tirs de mitraillettes, le photographe prend tout ce qu'il peut. La scène est d'une telle violence, se dit-il, qu'il vaut mieux ne pas réfléchir. Pendant 1h30, il photographie la guerre au plus près, les corps flottants. La Manche, qui devient rouge de sang et qui sera vite surnommée « Bloody Omaha ». Omaha la sanglante. Beaucoup d'hommes se noient, entraînés par la charge de leur matériel de combat. Malgré le froid et la conscience du risque d'y laisser sa vie, il veut être au plus près de l'événement. Des années plus tard, Capa décrira ce qu'il a ressenti lorsqu'un obus est tombé à quelques mètres de lui.
Je pris la photo. L'obus suivant éclata encore plus près. Je n'osais plus décoller mon œil de l'objectif de mon Contax et je pris frénétiquement photo sur photo. Une demi-minute plus tard, mon appareil se bloqua. Le rouleau était fini. J'en cherchais un nouveau dans mon sac. Mes mains mouillées et tremblantes bousillèrent le nouveau film avant que je puisse le mettre dans l'appareil.
Robert Capa doit se sécher les mains pour continuer son travail. Le souffle coupé, animé par une sorte d'instinct de survie, il retourne en arrière. Va vers la mer, monte à bord d'une barge. Celle-ci, touchée par un obus, se dirige vers le Samuel Chase, transformé en navire hôpital. Capa est revenu à bord du navire 6 heures après l'avoir quitté. Il prend la direction de l'Angleterre pour acheminer les pellicules tant attendues. Mais dans la panique générale, le laboratoire photo de Londres fait une erreur de développement et sur les centaines de photos prises, seulement 11 seront exploitables. Elles seront publiées dans le magazine Life le 19 juin 1944. La mémoire du 6 juin commençait. Au moment où Robert Capa débarque, d'autres troupes américaines et anglaises accostent à seulement quelques dizaines de kilomètres plus à l'ouest, sur une série de plages, 70 kilomètres, qui vont définir 5 théâtres d'opération. À l'est, depuis Cabourg, les Britanniques prennent pied sur les plages de Gold Beach et de Sword Beach. Ils quadrillent la zone de Vert-sur-Mer à Ouistreham. Les Anglais partagent avec les Canadiens la plage de Juneau, en face de Courseulles-sur-Mer. Ce nom aurait été proposé par le lieutenant-colonel Downey, un Canadien, parce que Juneau était tout simplement le nom de sa femme. Pour les 156 000 hommes engagés dans cette phase d'assaut, l'objectif est clair. Il leur a été martelé par les plus grands commandants des forces alliées, comme le général américain Eisenhower ou le maréchal britannique Montgomery. Avec leurs plus fidèles stratèges, pendant 3 ans, ils ont préparé une opération militaire d'envergure exceptionnelle. C'est une opération amphibie qui manifeste le passage entre la mer et la terre. L'objectif de cette opération nommée Overlord est de faire débarquer sur les côtes européennes, de façon coordonnée, en 2 jours, 8 divisions sur 5 plages, avec une mission. Établir un point d'appui à 15 km à l'intérieur des terres françaises pour préparer ensuite le débarquement de toute l'armée. Depuis les ports d'Angleterre, se sont donc amassées des forces terrestres, mais aussi navales et bien sûr aériennes. Les chiffres de cette immense armada donnent le vertige. 137 navires de guerre, 9500 avions d'attaque, 3200 véhicules débarqués, 10 900 tonnes de bombes larguées, au-dessus de la Normandie par les Alliés, 1700 tonnes de matériel en tout genre. Les Alliés le savent. S'ils parviennent à surprendre les Allemands, ils ont des chances de faire aboutir leur plan. Cela permettra ensuite de conquérir la Normandie et d'ouvrir un nouveau front en Europe de l'Ouest, face à l'Allemagne, pour soulager l'armée rouge de Staline, qui attaque de l'autre côté. Ils ont donc tout fait pour surprendre les Allemands et établi un faux plan, Fortitude. Une opération destinée à tromper l'ennemi avec de fausses informations, envoyées parfois sur des cadavres, d'autres fois à travers de fausses informations radio mal codées. Et même, ils ont installé dans le sud de l'Angleterre une fausse armée composée de chars en carton-pâte et d'autres gonflables. si bien qu'ils ont réussi à tromper la vigilance des Allemands. Dans la nuit du 5 au 6 juin, l'armée allemande remarque simplement les premières manifestations alliées au moment où les vaisseaux arrivent face aux côtes françaises. Retranchés dans leur blockhaus du mur de l'Atlantique, les 105 000 soldats allemands vont alors commencer à se battre frénétiquement. C'est une bataille sans merci qui s'ouvre. Le jour le plus long peut commencer. Ce jour le plus long, expression que nous devons au maréchal Rommel, qui en avril 1944 avait visité ce théâtre des opérations et avait dit que cette journée essentielle pour la suite de la guerre serait le jour le plus long pour les deux camps face à face. Dans le ciel normand, les avions d'attaque commencent à gronder. Des bombes explosent sur mer comme sur terre. Les habitants de la côte sont réveillés à l'aube par une incroyable cacophonie, un vacarme obsédant. Le moment qu'ils attendaient tant est arrivé, mais ce moment risque d'être celui où ils vont périr. L'information du débarquement commence donc à circuler de bouche à oreille, mais pas seulement. Déjà, les radios américaines et anglaises diffusent l'information. Le débarquement, la mobilisation des soldats est en cours, mais en fait, l'opération Overlord a commencé la veille. Dans la nuit du 5 au 6 juin, 13 000 parachutistes ont inondé le ciel français. Pour compliquer leur ralliement, les Allemands ont fait inonder des champs qui se situent à l'arrière de la côte, de sorte que les parachutistes atterrissent parfois dans des marécages plutôt que sur la terre ferme. Les Allemands veulent ralentir leur progression, certains vont même se noyer. La palme de l'atterrissage le plus étonnant va à un jeune Américain, John Steele. Il a dû sauter très en hauteur à cause de la DCA. Son parachute a été endommagé pendant la descente et il ne peut empêcher son vol de se diriger vers le clocher de Sainte-Mère-l'Église. Il va s'y retrouver coincé, essayer de faire le mort pour ne pas que les soldats allemands le tuent, mais finalement il est fait prisonnier. Il lui faudra attendre 3 jours avant de parvenir à s'évader. Pourtant, Sainte-Mère-l'Église sera quand même le premier village français libéré par les Alliés. Lorsque les premiers soldats ont réussi à s'implanter sur la plage, ils vont ensuite combattre pour prendre les bunkers et passer la première ligne de défense allemande. À partir de là, on peut commencer à faire débarquer des barges beaucoup plus nombreuses. À l'ouest d'Omaha Beach, il y a Utah Beach. L'unité américaine qui s'apprête à débarquer est dirigée par une sommité de l'armée américaine. Un général qui porte un nom très connu et très prestigieux. Celui d'un président de la République. Il s'appelle Theodore Roosevelt Jr. C'est le fils aîné de l'ancien président qui avait réussi à libérer Cuba à la fin du 19e siècle. Le petit cousin de l'actuel président en exercice, Franklin Delano Roosevelt. En juin 1944, ce général a 57 ans. Il a été gouverneur de Porto Rico, puis des Philippines. Et donc, Theodore Roosevelt Jr. est devenu brigadier général au sein de l'armée américaine. Il dirige la 4e division de l'armée, chargée de tenir la tête de pont située à l'ouest du plan Overlord, sur Utah Beach. Quelques jours auparavant, on a fait comprendre au général qu'en raison de ses soucis de santé et de son âge avancé, il ne devait pas accompagner ses troupes sur le terrain. Il est vrai que le général est sujet à de l'arthrite, qui l'oblige à se déplacer avec l'aide d'une canne. Lorsque Theodore Roosevelt Jr. a appris la nouvelle, il est rentré dans une colère froide. Il a écrit une lettre au major général Barton, son supérieur. Ces mots reflètent parfaitement sa détermination infaillible en ce qui concerne son engagement.
Les forces et compétences des premiers éléments touchant la plage peuvent être déterminants dans le succès de l'opération. Avec des troupes envoyées au feu pour la première fois, le comportement de la division tout entière sera influencé par l'attitude des premiers engagés. Les hommes qui ont pris l'habitude de me voir à leur côté tout au long de leur entraînement sont en droit d'attendre qu'il en soit de même lors de cette opération. Je pense que je peux contribuer à ces objectifs en accompagnant la première vague d'assaut. En outre, je connais personnellement les officiers et les hommes de ces unités et je pense qu'il serait bon qu'ils me sentent avec eux.
Ému par cette lettre, le major général Barton finit par accepter la requête, tout en craignant de ne jamais revoir son fidèle compatriote. À 7 heures du matin, les hommes de la 4e division descendent dans une barge de débarquement direction Utah Beach. Mais un événement change le cours des choses. Une erreur de navigation déporte vers l'ouest les péniches qui se retrouvent à 2 km de leur point initial d'atterrissage prévue. L'épaisse fumée provoquée par les bombardements et la mer agitée a dévié la trajectoire de la barge. Lorsque l'on signale au général Roosevelt cette erreur, qui pourrait être fatale aux troupes, ce dernier fait preuve d'un sang-froid et d'un courage impressionnant. Inflexible, il adresse ce message à son état-major. « Nous commençons ici la guerre. » Enfin stratège, le général a pressenti qu'il valait mieux débarquer plutôt que rebrousser chemin au risque d'être pris en tenaille par les Allemands. Ces derniers, surpris de découvrir ici des alliés, tardent à riposter. Roosevelt parvient à mener ses troupes dans les terres. Il devient ainsi le seul général à avoir accompagné ses hommes lors de la première vague de débarquement du 6 juin 1944. Entre combats, avancées, morts, le temps passe. À midi, les soldats qui ont survécu à la boucherie d'Omaha Beach parviennent à grimper sur les falaises et à atteindre Colville-sur-Mer. Sur Utah Beach, les quatre accès à la plage sont aux mains des Américains. Sur Juneau, la ville de Saint-Aubin-sur-Mer est libérée. Au moment où la dernière vague de débarquement arrive sur cette plage, les soldats de la première vague sont déjà à 8 km à l'intérieur des terres. Malgré de très lourdes pertes, la situation semble tourner en faveur des Alliés. À la même heure, dans sa résidence des Alpes bavaroises, sur l'Obersalzberg, Adolf Hitler prend connaissance du dernier compte-rendu du chef d'état-major chargé de la façade atlantique. À ce moment-là, les Allemands sont persuadés que les Alliés préparent une offensive encore plus importante et que ce qui s'est passé ce matin-là n'est qu'une feinte, une tentative de les tromper. Ils savent que les forces engagées par les Alliés ne représentent qu'une faible proportion de leurs effectifs réels. Finalement, ils n'ont pas vraiment conscience de l'aspect irréversible de la situation. Ils sont en train de commettre une terrible erreur d'appréciation. Hitler espère-t-il encore une nouvelle attaque du côté de Calais? Et est-ce la raison pour laquelle il tarde tant à mobiliser ses troupes? Sur le front, les troupes allemandes continuent de s'affaiblir. Dans l'intensité de ces combats qui jalonnent cette incroyable journée, un groupe de combattants se détache des autres. Ils ne sont ni américains, ni anglais, ni canadiens, mais français. On oublie souvent que quelques 3000 Français ont débarqué ce jour-là pour libérer leur propre pays.
Allons, enfants de la...
On connaît aujourd'hui le détail de ces forces françaises. 177 fusiliers marins commando, 38 parachutistes, 2600 hommes répartis sur 12 navires, 227 aviateurs à bord de 135 appareils. Certains de ces groupes ont pour mission de libérer Ouistreham, et notamment le casino de la ville transformé en bunker par les Allemands est devenu un point névralgique de la surveillance du mur de l'Atlantique. C'est l'objectif des 177 Français du 1er bataillon de fusiliers marins commando intégrés aux forces anglaises. Ces hommes constituent une unité d'élite. Ils ont été entraînés à Londres et en province par le commandant Philippe Kieffer, un officier supérieur de la Marine nationale. À l'approche des côtes françaises, leurs cœurs se sont serrés. Ils devinaient derrière l'horizon leur terre natale. Comme prévu, les commandos britanniques les laissent passer en tête afin qu'ils touchent les premiers le sol de la patrie. Pour eux, l'heure de la revanche a sonné. Léon Gauthier avait 22 ans à l'époque. Il était sur la barge de débarquement numéro 523 sous les ordres du commandant Kieffer.
Quand nous avons débarqué, sur notre droite, nous avions le Norfolk Regiment qui débarquait à notre droite, et avec des tanks, avec des fléaux qui faisaient sauter les mines. L'ennemi a concentré son feu sur ses tanks et sur ses Anglais, ce qui nous a permis, quand nous étions à l'extrême est du débarquement, de pouvoir traverser la place sans trop de dommages, vraiment. Ouais.
Juste après avoir touché la terre ferme, les hommes se dirigent vers le casino de Ouistreham. Kieffer est blessé par un éclat d'obus. Les Allemands défendent férocement leur position. Le bunker résiste. Les hommes tentent par deux fois sans succès à l'aide d'un piat, c'est-à-dire d'un bazooka anti-char, de réduire au silence le feu nourri provenant du casino. Le commandant Kieffer est averti par radio du débarquement de six chars Centaure, ces gros chars canadiens extrêmement puissants. Kieffer retourne en arrière. Il mobilise un char, revient avec lui sur la tourelle, est blessé une deuxième fois. Le combat ne s'arrête pas là, il continue, il veut mener ses hommes à la victoire. La bataille est loin d'être terminée pour les deux camps. mais un homme, un civil, va contribuer à changer la donne. Il s'appelle Marcel Lefebvre, il a 57 ans. C'est un vétéran de la guerre de 14-18. Il vient à la rencontre des soldats français et leur livre une information capitale. Il sait où se trouve la ligne téléphonique souterraine reliant les défenses allemandes locales. Grâce à ces indications très précises, les commandos détruisent les communications et isolent le bunker du reste du dispositif défensif germanique. La garnison allemande finit par se rendre et bientôt, le bunker est libéré. Le commandant Kiefer, à la fin de la journée, aura perdu 10 hommes. Mais c'est une victoire, une première victoire française sur le sol de France. Vers 16h, les hommes du commando Kiefer sont harassés. Pourtant, ils doivent continuer de progresser dans les terres coûte que coûte. Ils franchissent le canal de l'Orne, puis le pont de Ranville, et établissent la liaison avec les soldats anglais sur place. Kiefer souffre de plus en plus de sa blessure. Il donne une demi-heure de repos à ses hommes. À chaque fois que les soldats font une pause, ils tombent à moitié à terre, tant la fatigue est rude. Guy Hattu est officier au sein de ce premier bataillon de fusiliers marins commando. Il a 29 ans. Il avait rejoint les forces françaises libres à Londres en juin 1941. C'est aussi le neveu d'un écrivain célèbre, Georges Bernanos. Voici comment il raconte la redécouverte de son pays en cet après-midi du 6 juin 1944.
Nous sommes trop fatigués pour parler, mais pas assez pour ne pas sentir le parfum de cette herbe grasse, ni pour ne pas entendre le son de ce ruisseau. Je réalise pour la première fois que je suis bien en France depuis 8 heures. Cette terre ne ressemble à aucune autre terre. Je ferme les yeux et la respire à plein poumon. Un calme prodigieux. Pour moi, à cette minute, la France retrouvée, ce fut simplement cet irrésistible appel qui me venait de cette terre, l'herbe haute et grasse, ce ruisseau perdu dans la campagne qui coulait joyeusement sur ses bords. C'est là, et non pas ailleurs, qu'en cette première pensée, j'ai acquis la certitude, par tant d'années d'absence, d'avoir retrouvé mon pays.
Ce sentiment est partagé par bien d'autres soldats français. 40 ans après, le 6 juin 1994, le président de la République, François Mitterrand, s'est rendu à Ouistreham. Là, il a voulu rappeler l'exploit qu'a constitué l'action du commando Kiefer, mais il l'a aussi resitué dans l'ensemble de l'opération Overlord, si importante pour la libération de la France.
Ce n'est pas à Ouistreham que j'ai besoin de rappeler les exploits qu'ils ont accomplis dans cette journée avec leurs camarades anglais du 4e commando. Commando Kiefer s'est véritablement inscrit dans l'histoire de notre pays. En rappelant son rôle, je ne prétends pas surestimer la part qu'ils ont prise dans le succès de l'opération Overlord, mais il suffit de se rappeler qu'ils étaient là, au premier rang.
Au soir du 6 juin, la majeure partie des objectifs a été atteinte, malgré des pertes lourdes. Au total, 135 000 hommes, 22 000 parachutistes, 20 000 véhicules, dont 900 chars, ont débarqué. 1 400 tonnes d'approvisionnement sont à terre. Bayeux est aux mains des Alliés. Les deux ports artificiels d'Arromanche et d'Omaha sont en cours d'installation, ainsi que plusieurs terrains d'atterrissage. C'est une véritable tête de pont qui a été établie, mais elle reste fragile. Seulement 8 km de long pour 2 ou 3 km à l'arrière des terres. En revanche, à Caen, l'aérodrome de Carpiquet est toujours allemand. Globalement, les opérations se sont déroulées selon le meilleur scénario possible. Mais la France, comme le reste de l'Europe, n'est pas encore libérée. La bataille de Normandie ne fait que commencer. Elle va durer 100 jours. Au soir du 6 juin, 10 000 soldats alliés ont été tués ou sont disparus. Les Américains ont payé le plus lourd tribut avec environ 6 000 morts. Côté allemand, on estime entre 4 000 et 9 000 les soldats qui ont été tués le jour J. La tête de pont, établie le jour J grâce à l'opération Overlord, va finir par devenir le point d'appui de toute la reconquête européenne. C'est par là que la majeure partie du matériel de libération va survenir avant le débarquement en Provence le 15 août 1944. C'est par là que le 1er août 1944, la 2e division blindée va entrer en France avant de participer et de contribuer à la libération de la Normandie avant celle de Paris. Les forces anglaises, américaines et françaises vont traverser la France, la Belgique, entrer en Allemagne et elles se retrouveront à la fin de la guerre à l'Obersalzberg, là où précisément, ce matin du 6 juin 1944, Hitler avait appris et négligé le débarquement qui était en cours. En ouvrant un second front, le débarquement a donc permis de vaincre l'Allemagne nazie. Mais il a aussi contribué à redéfinir l'Europe au lendemain de la guerre. Sans l'intervention des Anglo-Saxons, l'Union soviétique aurait continué sa progression et imposé à toute l'Europe la domination du totalitarisme communiste. Si vous voulez en savoir plus sur le 6 juin, il y a bien sûr le classique livre d'Anthony Beevor, D-Day et la bataille de Normandie, et puis une kyrielle de nouvelles publications, Les Français du jour J, de Benjamin Massieu aux éditions Pierre de Taillac, D-Day, Les soldats du débarquement aux éditions Noir et Blanc, un livre de Gilles Milton, de Cornelius Ryan, le fameux jour le plus long, celui qui a été adapté au cinéma et qui est republié aux éditions Ouest France avec de magnifiques illustrations. Et c'est là-dedans d'ailleurs que se trouve la fameuse phrase du maréchal Rommel. Et puis, on peut ajouter, toujours aux éditions Ouest France, les lettres de soldats alliés, Till Victory, qui est aussi un livre très illustré avec des correspondances, beaucoup de documents personnels, bref, la possibilité de se faire une vision très personnalisée du jour le plus long qui a été quand même une des plus grandes opérations collectives. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Thomas Caillet.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.